חג שמח. Bonne fête de Sukkot à tout le monde. La violence est le sujet permanent de la vie humaine, de la société des hommes. Et la paix, c'est l'événement exceptionnel, ça se passe à Sukkot. Sukkot, un des thèmes centraux de cette fête, c'est la vision d'un monde sans guerre, un monde de paix. Dans le livre de Tehillim, chapitre Ayin Vav 76, Noda Bihuda Elohim, Dieu est connu en Juda, Be Israël Gadol Shemo, en Israël son nom est le grand, Vayhi Beshalem Souko, c'est à Shalem, c'est-à-dire Jérusalem, qu'il a mis sa souka, Ma'onato Betzion, et sa résidence est à Tzion. Et ce n'est pas pour rien que le psalmiste emploie le terme de désigne Jérusalem par le nom de Shalem, qui veut dire entier, qui veut dire également la paix. Effectivement, Sukkot, c'est une vision d'avenir. Si la fête de Pessah est une fête qui parle du passé, de la sortie d'Égypte, une fête de l'origine, la fête de Shavuot parle du présent, de la Torah qui se révèle à tout moment de notre vie. Bechol yom yu be'enecha kachadashim, qu'à chaque jour la Torah t'apparaisse comme nouvelle. La fête de Sukkot annonce l'avenir. C'est une fête du futur. C'est elle, en fait, si on peut dire d'une certaine manière, c'est une préfiguration des temps messianiques. Par exemple, dans le livre de Zecharia, au chapitre 14, dans la Haftara que nous lisons le premier jour de Sukkot, eh bien, il est question là-bas de ce qui se passera après la dernière des guerres. La dernière guerre, qui est appelée dans le livre d'Ézéchiel Gog et Magog, n'est pas désignée par ce nom-là dans le livre de Zecharia, mais en fait, c'est ça dont parle le prophète. Et il nous dit que viendra un temps où, après la dernière des guerres, les nations viendront se prosterner à Jérusalem lors de la fête de Sukkot. Donc on voit bien que la fête de Sukkot, étant la fête de l'avenir, c'est la fête qui préfigure un monde sans guerre, un monde de paix. Ce qui n'est pas du tout naturel, n'est pas du tout normal. Vous savez que Manitou, Zichronoy Bracha, enseignait souvent que la paix n'est pas le comportement normal des sociétés humaines. C'est-à-dire, il y a une attitude naïve qui consiste à dire que la paix, ça va de soi, et on pourrait effectivement renforcer cette opinion si vous faites une enquête, un sondage, et que vous interrogez la majorité des hommes, est-ce qu'ils préfèrent la guerre ou la paix? Eh bien, la réponse de la majorité des hommes sera, je pense, une majorité écrasante, nous préférons la paix à la guerre. Et pourtant, depuis les origines de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, mamache, il y a des guerres à n'en plus finir. À l'heure où nous parlons, il y a à peu près une vingtaine ou une trentaine de guerres qui sont organisées dans le monde, qui se produisent actuellement. Et donc on peut se demander, est-ce que c'est vrai ce que les hommes disent? Il semblerait qu'effectivement c'est faux, que les hommes en vérité sont portés à la guerre. Pour une raison très simple, c'est que les hommes vivent dans un monde de rivalité. La rivalité vient du fait que si on reprend par exemple la définition que donnait le Rav Ashlag, l'auteur du Soulam, sur qu'est-ce que c'est qu'une créature, une créature est celui qui veut recevoir. Ratson Lekabel. Et si donc la définition de l'être la plus intime c'est vouloir recevoir, il est évident qu'entre deux êtres qui veulent recevoir, il y aura une rivalité pour savoir qui c'est qui va recevoir. Donc on peut dire que la guerre est la situation normale, la paix est quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs, ça a été très bien repris par Enrico Macias qui a dit « Ose shalom bimromav » ou « Yase shalom aleno ». Ce qui veut dire c'est seulement celui qui est capable de faire la paix dans ses hauteurs qui est capable de faire la paix parmi nous. C'est une chanson extrêmement pessimiste si vous y réfléchissez bien. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes découragés à l'avance de réaliser la paix par nous-mêmes et nous avons besoin d'un coup de pouce, d'une intervention du Très-Haut, celui qui fait la paix dans ses hauteurs, pour que la paix soit réalisée chez nous. Donc on peut dire que la violence est une donnée permanente de l'histoire. Évidemment, les Juifs, entre autres, espèrent un monde de paix. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui va amener la paix? Alors on peut dire, et s'il y a quelque chose d'un peu blasphématoire dans cette affirmation, on pourrait dire que c'est la guerre qui amènera la paix. D'accord? Il y a une vision de ce genre qui dit, les guerres c'est un mal nécessaire, ça enclenche des processus qui finalement amèneront à la paix. Et donc, il faut prendre le mal en patience, se dire qu'après tout, c'est comme ça que ça se passe. Puisque finalement ça arrive à un bon résultat, c'est assez bon, pourrait-on dire. Il y a quelque chose effectivement d'un peu blasphématoire dans cette expression-là, dans cette idée-là, parce que ça voudrait dire que la paix est entachée de guerre. C'est-à-dire que la fin de la violence aurait pour origine la violence. Il y a quelque chose de profanatoire. C'est-à-dire, ça veut dire que la paix finale, la paix messianique, serait le produit de la guerre, et donc il y aurait quelque chose d'immoral dans cette paix-là, puisqu'elle a eu la guerre comme justification. On voit souvent chez les prophètes que ce n'est pas du tout comme ça que c'est présenté. On voit que le temps de la guerre est un temps qui doit passer. Une fois que la puissance de guerre est épuisée, c'est alors qu'intervient un nouveau, flux, un nouvel épanchement de lumière qui est la paix, qui viendrait des hauteurs justement et qui ne serait pas le produit de la guerre. C'est la guerre qui gêne la paix. Mais la guerre n'est pas l'engendrement de la paix. La paix vient des hauteurs. Et on peut dire, c'est un point de ce point de vue-là, donc la paix est quelque chose, le shalom, quelque chose d'immaculé, qui n'est pas entaché par la violence. La Gemara, par exemple, dans le livre, dans Maseret Sanhedrin et dans Sota, nous dit que pendant l'époque où doit venir le fils de David, le temps messianique, il y a un processus de dégradation du monde qui est préalable à cela. Il y a un temps très dur. La Guémara explique ça comme étant 7 années différentes. Il y a 7 ans qui précèdent la venue du Mashiach. Et ça commence mal. Et ça va très mal à la 4e année. C'est-à-dire, au début, il y a des problèmes de pluie, des problèmes économiques, après de la violence, après encore plus de violence, après beaucoup de violence. Et puis après, ça commence à aller mieux, jusqu'à la 7e année. Et après, le fils de David vient. Et le moment où ça va le plus mal, c'est, la Gemara nous dit, Torah mishtakachat milomdea. La Torah est oubliée par ceux qui l'étudient, par ceux qui l'étudient. C'est-à-dire, ceux qui étudient la Torah oublient la Torah. C'est absolument incroyable. On pourrait dire que la Torah est oubliée par ceux qui ne l'étudient pas. Mais justement, la Gemara nous dit qu'elle est oubliée par ceux qui l'étudient. Et puis après, quand ça commence à aller mieux, la Gemara dit, Torah choseret milomdea, la Torah revient à ceux qui l'étudient. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la Torah est étudiée, mais elle est oubliée. Elle est étudiée parce que il faut bien étudier la Torah, c'est une mitzvah. Mais elle n'est plus d'actualité. C'est-à-dire la manière dont la Torah a été étudiée jusqu'à présent avait un sens dans un ancien monde, et puis elle a cessé d'être d'actualité. Et après, une nouvelle Torah, qui est quand même la même sous une autre forme, apparaît, et alors le monde devient meilleur. Le Maharal de Prague explique que ce processus décrit par la Gemara signifie que pour qu'un nouveau monde apparaisse, il faut que l'ancien monde disparaisse. C'est-à-dire, le monde où il y avait des guerres doit cesser d'être fonctionnel, et à partir d'un certain temps, se fonde un nouveau monde, c'est le monde de la paix. Vous connaissez le texte, c'est un texte bien connu dans le traité de Souka, non, dans le traité, pardon, de Avodah Zarah, qui parle du jugement des nations à la fin de l'histoire. C'est un texte qui a été longuement commenté par des maîtres prestigieux, donc nous n'allons pas l'étudier. Mais je tiens à rappeler simplement qu'à la fin de l'histoire, la Gemara nous dit que les nations sont jugées. C'est-à-dire l'histoire des nations est jugée, et chaque nation doit justifier son comportement dans l'histoire. Ce qui se passe, c'est que finalement, les nations sont disqualifiées pour différentes raisons que nous n'allons pas étudier ce soir. Mais finalement, les nations demandent malgré tout d'avoir une mitzvah qui leur donnerait du mérite. Et Akadosh Baruch Hu leur propose, prenez la mitzvah de Souka. Faites une Souka. On va vous y voir. Et la mitzvah est désignée comme étant une mitzvah kala, une mitzvah facile. Pourquoi c'est une mitzvah facile, dit la Gemara, chez Enbach Esron Kis, elle ne coûte pas d'argent. La preuve, c'est une chose bien connue, toutes les personnes qui vendent des soukottes gagnent de l'argent. C'est donc la preuve qu'il n'y a rien, il n'y a pas de perte. En tout cas, la Guémara nous explique que les goyim donc construisent leur souka et chacun construit sa souka sur son toit. Berosh Gago. Bon, vous allez me dire, c'est une banalité. Dans l'Antiquité, les toits étaient plats et les gens faisaient leur souka sur le toit. Pas comme aujourd'hui où ça se fait sur le gazon ou sur la mirpessa, ça se faisait sur le toit. Mais quand même, l'insistance de la Guémara, on vous dit « kol echad bonel lo souka », chacun se fait une souka. Pourquoi insister sur le fait que c'est sur le toit? Ben, ça veut dire que le monde change de métaphysique. C'est-à-dire les valeurs spirituelles qui sont représentées par l'image du toit sont asservies à la mitzvah de la souka. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi que les goïms doivent faire une souka? Ben, une souka, ça veut dire faire la paix. Plutôt est-ce que je tire ça, c'est tout simple. Vous savez qu'à Soukot, nous avons deux mitzvot centrales. L'une, les quatre espèces, Arbat Aminim, mais l'autre, la souka. Il y a une différence fondamentale du point de vue de la halakha entre les deux manières de faire la mitzvah. Les Arbat Aminim, le loulav, ça doit m'appartenir, ça doit être, je dois l'avoir acheté avec mon argent, ça doit être ma propriété, ainsi qu'il est dit, ou le kartem lachem. Vous prendrez pour vous les quatre espèces, et donc c'est quelque chose qui m'appartient en propre. Si le loulav m'appartient à moi, ça veut dire qu'il ne t'appartient pas à toi. C'est très particulier, le loulav. Par contre, la souka n'a pas besoin d'être la mienne. Yecholim, Reuim, Kol Israël, Leshev, Besouka, Achat. Tout Israël peut s'installer dans une seule souka. Ça veut dire quoi? Mettez tous les juifs dans une seule souka. Alors, vous allez me dire, bon, il y a des problèmes de dimension. Mais ça, c'est purement du technique. Le problème, c'est un problème humain. Parce que, en général, un juif vous dira, si lui rentre dans la souka, moi, j'y rentre pas. Ça veut dire que si tout Israël est capable de rentrer dans la même souka, ça veut dire qu'Israël sont capables de faire la paix. Il y a une question d'Alaha qui a été posée du temps du Rama Rabbi Moshe Isserles à propos d'une souka dans laquelle un voleur peut introduire sa main. C'est fait avec des planches, mais entre les planches il y a des espaces et un voleur peut introduire sa main. Alors quelqu'un a demandé au Rama, est-ce qu'une souka comme ça est cachère? Alors il a répondu, étant donné que tout Israël peut se mettre dans la même souka, ça implique également les voleurs. Et donc si tu es capable d'introduire le voleur dans la souka, s'il peut seulement mettre sa main, à plus forte raison que c'est cachère. Mais enfin bon, ça veut dire que la souka, de manière générale, représente la capacité de faire la paix. Et donc c'est ça que HaKadosh Baruch Hu propose aux hommes. C'est-à-dire, c'est vrai que l'humanité a été déficiente dans beaucoup de choses, mais au moins qu'elle cesse la violence. Cesser la violence serait la capacité de mériter quelque chose. Plus de violence, alors tout est ouvert. Et la Guémara nous raconte que ça ne marche pas. Les nations vont essayer de briser la violence. Ils vont donc pour cela faire des organisations. Des organisations internationales qui sont censées empêcher la violence. Et puis ça ne marche pas. Alors la Guémara dit ça d'une manière très, très figurée. Elle dit, il fait chaud. Et quand il fait très chaud, et que la souka est insupportable, et bien on a le droit d'en sortir. C'est le principe de la halakha, mitztaer patur minasuka. Celui qui souffre de vivre dans la souka en est dispensé. Et donc vient un moment de chaleur, une canicule terrible, les goyim sortent de la souka en lui donnant un coup de pied, et Dieu se met à rire. Il se met à rire. Yosheb Bashamaim Israq. Alors, la Guémara demande, mais enfin, pourquoi est-ce que les goïms sont coupables de sortir de la souka? Alors que la halakha est qu'on a le droit de sortir de la souka quand il fait très chaud. Alors la Guémara dit, oui, mais on ne donne pas de coup de pied. Pourtant, ce n'est pas une halakha. Si quelqu'un sort de la souka et qu'il donne un coup de pied dans la souka, il n'a rien transgressé dans la halakha. Et pourtant, c'est justement pour un point qui n'est pas un point de halakha que les goïms sont jugés. Selon un grand principe qui est que les nations sont jugées en fonction de leur capacité de s'acquitter du Derech Eretz. Le Derech Eretz étant quelque chose qui n'est pas écrit dans les règles de la loi, c'est quelque chose qui vient d'une transformation de l'être moral. Et si les goïms donnent un coup de pied dans la soukha, c'est qu'il y a un problème. Quelque chose n'est pas encore bien assimilé dans l'oreille du point de vue moral. Mais ça veut dire quoi qu'il fait chaud? Si déjà la soukha c'est une parabole, c'est une image, alors ça veut dire quoi qu'il fait chaud? Ben, ça veut dire qu'on ne peut plus faire la paix parce qu'il y a de la chaleur. La chaleur, ben, c'est quoi? C'est la barbarie. Il y a de la barbarie dans le monde et la barbarie demande d'intervenir. On ne peut pas rester indifférent à la violence qui éclate dans des points du globe. Il faut absolument faire quelque chose. Donc on va envoyer une force armée, des casques bleus, quelque chose. Donc il faut sortir de la soukha. Mais le problème... Bon, et d'ailleurs, les juifs aussi font la même chose. Quand les juifs sont attaqués, quand les juifs doivent remettre un peu d'ordre dans le monde, eux aussi font la guerre. Nous avons des règles de la halakha, milchemet mitzvah et tout ce que ça implique. Milchemet reshut. Il y a des guerres dans la halakha aussi. Donc, faire la guerre quand c'est nécessaire, ça va. Le problème, est-ce que quand on fait la guerre, on a un sentiment de libération, ou bien est-ce qu'on a le sentiment d'un devoir? Alors, quand on peut dire que le juif souffre de souffrir, c'est-à-dire, mitzter patur min asuka, celui qui souffre est dispensé de la souka, mais il souffre d'être dispensé. C'est-à-dire, il souffre d'être souffrant. Il se dit, ça serait tellement mieux si je ne souffrais pas que je pourrais être dans la soukha. C'est-à-dire, faire la paix, si on revient à l'image, serait vraiment l'idéal. Mais que faire? Ça ne marche pas toujours. Il faut le faire. Tandis que chez les nations, il y a la libération de la violence. Ah, enfin, nous pouvons faire la guerre. En fait, ce que ça veut dire, du point de vue de la Guémara, ça veut dire que les goyim seront jugés par rapport à leur manière d'appréhender la nécessité de la violence. C'est ça qui va juger les nations. Et en fait, chaque nation sera jugée, parce que, bon, la Guémara dit, les goïms ne réussiront pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne réussira pas. Chacun est jugé en fonction de sa réaction par rapport au problème de la violence. C'est ça le fondement de la chose. Alors, une fois que c'est fait, ça engendre le rire. C'est-à-dire, une fois que cette séparation est faite, il y a un rire. Bon, le rire, c'est pas sérieux. C'est pas rigolo. Enfin, c'est plutôt rigolo. Et il y a une expression israélienne employée par le Gashash, alayhi shalom, qui dit Haolam matzrik astochakim. C'est-à-dire, le monde est risible, le monde est rigolo, et donc on va rire. Mais la vérité, c'est que la tradition juive considère justement que le monde n'est pas drôle. La Gemara dans Brachot nous dit qu'au nom de Rabbi Yochanan, qui disait au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Assur la dame les malé pifsrok baolam azé. Il est interdit de se remplir la bouche de rire dans ce monde, parce que le monde n'est pas drôle, justement. Et il est dit pourtant, az yimalé sechok pinu. Viendra un jour où notre bouche se remplira de rire. C'est-à-dire que le rire, c'est l'aspiration. Nous voulons rire à la fin. Selon la belle expression, rire à bien. Ah, vous connaissez? Bon, qui rira le dernier? Ou bien, comme dit dans les Chetraïl, Vatisrak Leom Acharon, elle rit du dernier jour. C'est-à-dire, l'espérance, c'est que vient un moment où l'on peut dépasser les cadres de la pensée habituelle et de pouvoir rire. Mais tout ça est réservé pour la fin de l'histoire, quand le monde devient enfin harmonieux. Rire, je voulais peut-être insister là-dessus, rire, c'est le contraire du sérieux. Le sérieux, c'est une pensée bien établi, on peut dire une pensée dogmatique. Quand je suis incapable de rire, ça veut dire que je suis très sérieux, ça veut dire que je réfléchis selon des règles bien fixées. J'ai des concepts qui font que je suis, disons, dans les cadres de la logique absolue, tout marche bien. Le problème, c'est que les concepts, par définition, sont faux. Et ils cachent ce qu'ils veulent révéler. Là, c'est bon, tout le problème du signifiant, du signifié, mais c'est-à-dire que il y a, dans le langage que nous employons, nous avons des idées toutes faites, et ces idées toutes faites nous empêchent de connaître la vérité. Or, les prophètes nous ont dit que viendra un temps où la langue changera. Dans le livre de Tsefania, chapitre 3, « Az ehefor el amim safa brura » viendra un temps où je transformerai le langage des nations, qui deviendra un langage clair, Safa Berura, Likro Kula Beshem Hashem, pour que tous puissent invoquer le nom de Dieu, ou l'Ovdo Shechem Echad, et le servir d'une seule épaule. Ça veut dire qu'il y a dans les manières de penser des hommes des blocages. Et pour pouvoir se débloquer, il faut savoir rire. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous fait rigoler? Il y avait un juif du nom de Bergson qui disait c'était la surprise. C'est-à-dire, vous avez Mickey Mouse qui avance dans la rue, tout va très bien. Et puis il glisse sur une peau de banane, il tombe. On ne s'attendrait pas à ce qu'il tombe. Eh bien, donc ça nous fait rigoler. Une peau de banane qui fait glisser quelqu'un. Voilà. Ou bien par exemple, s'il marche sur la falaise et qu'il ne se rend pas compte qu'il est dans l'air et qu'il continue à marcher. Brusquement, il se rend compte qu'il est en l'air, il tombe. Ou bien, il revient en arrière. En tout cas, il y a, la surprise permet de briser les cadres habituels de la pensée. Eh bien, cette transformation des cadres de la pensée s'appelle le rire. Azimale sechok pinu. Et donc, quand le monde enfin arrive à son harmonie, c'est le moment de commencer à rire. D'accord ? C'est ça que nous dit la Gemara de manière très succincte. Et donc, la Gemara nous parle donc d'une part d'une vision pessimiste de l'humanité, mais d'autre part d'une espérance qu'un jour le tri sera fait. Il y a un texte un peu moins connu de la Gemara dans le traité de Sanhedrin qui reprend cette même idée que nous avons vue dans le traité de Souka sur la Souka des Goïms à la fin de l'histoire. Et c'est un texte un peu bizarre. Hein, pour dire, les commentateurs disent que ce texte est porteur de secrets. C'est dans Sanhedrin, page 95b, à propos du roi Sanhérib. Le roi Sanhérib, ou Sennachérib comme on dit en français, était le roi des Assyriens et qui s'est attaqué au roi Hizkia, qui a fait le siège de Jérusalem et qui avait une armée énorme et que cette armée a été décimée par une épidémie et il a perdu la guerre. Et non seulement il a perdu la guerre, mais Sanhérib revient dans son pays, dans la ville de Ninive, il se fait assassiner par ses deux fils. Donc, grande victoire. Et la Guémara voit dans cette guerre de Sanhérib une sorte de préfiguration de la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire le dernier grand conflit armé de l'histoire qui doit tout trancher. Et ça aurait pu se passer au temps de Sanhérib. La Gemara nous dit « Hizkiyahu aurait dû être le Mashiach, Sanhérib aurait dû être Gog et Magog ». Bon, ça n'a pas marché parce que Hizkiyahu n'a pas voulu dire le Hallel à Yom HaAtzmaout. Mais, non, c'est vrai, ce que dit la Gemara. Il a refusé de dire un cantique lorsqu'il a retrouvé son indépendance. C'est bien clair. Et donc, ça a été repoussé pour plusieurs milliers d'années. Et... Non, pas des Magog. Gog ou Magog. Il y a des synagogues qui font pas le Hallel? Je n'en crois pas un mot, c'est pas des synagogues. Bon, et donc oui, bien sûr, ça va de soi. Si vous croyez en Dieu, c'est ce qu'on fait dans les synagogues, n'est-ce pas? Donc vous dites le Hallel à Yom HaTzmaout, c'est évident. Bon, maintenant pour revenir à notre sujet. Donc on parle ici du roi Sanhérib. Et il y a une description dans la Gemara de l'armée, des effectifs de l'armée. Et alors on nous raconte que, bon, c'est un chiffre astronomique, ça arrive que si vous faites le calcul de tout ce que dit la Gemara, ça vous donne 2,6 milliards de soldats. Bon, un chiffre astronomique, évidemment, la Gemara, le Maharal de Prague explique tout de suite, c'est pas que c'était vraiment 2,6 milliards, ça veut dire que c'est ça que ça aurait dû être. D'accord ? Mais bon, en vérité, il y en avait autant que possible, dit le Maharal. Mais pourquoi parler de tant de monde ? Ben parce que ça veut dire que 2,6, c'est un multiple de 26, n'est-ce pas ? 26, c'est le nom de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il s'attaque à Dieu. Parce qu'effectivement, la Guémara dit, il y avait là-bas 2,6 milliards de personnes, moins une. Moins une. C'est important, c'est-à-dire les effectifs, il manquait un pour que ça fasse 2,6 milliards. Ça veut dire qu'il manquait l'unité. C'est-à-dire que le Hachem Echad, c'est-à-dire l'auteur du monde, c'était une lutte contre le créateur du monde. Et il y a une description des effectifs, entre autres, il y a là-bas 45 000 fils de rois qui sont dans des chars en or avec des prostituées. Donc des fils à papa qui sont partis faire la guerre avec du chocolat dans leur voiture, etc. Et puis, tout le monde, tout ce beau monde, finalement, disparaît dans l'épidémie. Alors, Sanhérib, très embêté, prend la fuite. Il prend la fuite parce qu'il a peur des parents, des fils à papa en question. C'est-à-dire, il y a la haute bourgeoisie avait envoyé ses enfants à la guerre pour s'amuser, et puis finalement, ça s'est mal passé. Alors, très embêté. Alors, la Guémara dit la chose suivante. Je vous lis ça, c'est écrit en araméen, on va traduire tout de suite. Amar Rabbi Abaou disait, il m'allait mikra katouv yefchar le omro. Si ce verset n'était pas écrit, on ne pourrait pas le dire. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Bayom Aou Yegala Hashem Betar Asechira, en ce jour, Dieu rasera avec un rasoir loué, Be'evre Nahar, au-delà du fleuve, Be'melech Hashur, le roi d'Assyrie. C'est-à-dire, Dieu empruntera, va louer un rasoir pour raser le roi d'Assyrie, et Tarosh, sa tête, ou Se'ar Araglaim, et les poils de ses pieds, Ve'gam et Azakan Tispe, et la barbe aussi sera consumée. D'accord ? Donc Dieu devient un coiffeur. Et la Guémara explique c'est quoi que ce verset dit. Ata kucha berichu. Dieu est venu. Ve idmele ke gavra saba. Et lui est apparu à Sainte-Rérive comme un vieillard. C'est-à-dire quoi que Dieu apparaît à Sainte-Rérive comme un vieillard. C'est très simple. Ça veut dire que l'armée de Sainte-Rérive était une armée brutale, violente, pour qui le divin ne signifiait rien. Et c'est-à-dire que l'idée de Dieu est une idée vieillotte. Et Dieu donc lui apparaît comme un vieillard. Ah, tu es là ? C'est-à-dire, une fois que la guerre est finie, on revient aux vieilles idées. Amarle, il lui dit, qui a Zalt les Gabé Mizrach ou Maharav, lorsque tu rencontreras les rois d'Orient et d'Occident, Daïtitinu les Banayou, dont tu as amené les enfants, ou Ktaltinu, et que tu les as fait tuer. Maya Martleo, qu'est-ce que tu vas leur dire? Bien, tu es bien embêté, hein, maintenant. Amar Leo, Aou Gavra Baou Pardan Ameyativ. Et alors, Sadri lui dit, effectivement, j'ai peur. Amarle, Echinabi, alors que faire? Amarle, Zil Veshane Nafshar. Alors, change de visage. Comme ça, on ne te reconnaîtra pas. Bemaïchne, comment changer de visage? Amarle, Zil Aite Li Maspera. Amène-moi des ciseaux. Vigzeyar, je vais te coiffer différemment. Anna, moi-même. Mais Echaite, où est-ce que je vais en amener les ciseaux? Amarle, Olle Aubetaran dans cette maison. Vehaite, et amène de là-bas. Il rentre donc dans la maison. Ashkarinu, il a trouvé des ciseaux. Atu malaché acharet. Et les anges sont arrivés. Les anges du service sont arrivés, ils sont rentrés dans la maison. Veid moulek et gavre, ils lui sont apparus comme des hommes. Vehavu katahane tachkashiata. Et il moulait avec une meule des noyaux de dattes. Je ne sais pas à quoi ça sert de moudre des noyaux de dattes, mais enfin c'est ce que faisaient les anges du service dans la maison en question. Amar Léou, a voulu Masparaïl, et donc Sanhérif dit, vous pouvez même passer les ciseaux. Amroulé, Techonrad Griva de Kashiata, Vinitena. Alors il faut que tu te mettes toi aussi à moudre une certaine quantité de noyaux de dattes, et on te donnera les ciseaux. Vous y croyez, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Guémara. Vous allez quand même pas me dire que vous allez remettre en question des paroles de la Sainte Guémara. D'accord? Bon. Tahan had grivra de Kashiata via voulé masparta. Et ils lui ont donné, après qu'il ait moulu, il a participé donc au moulage des noyaux de dattes, et on lui a donné les ciseaux. Bon, j'arrête là pour l'instant pour expliquer un peu, parce que sinon on va s'y perdre. Alors d'abord, ça veut dire quoi cette histoire? Qu'il doit changer. C'est-à-dire qu'il comprend que les enfants des fils à papa sont morts et il fallait quand même faire quelque chose pour créer un nouveau monde. Tu dois changer de visage, c'est-à-dire tu vas créer un monde de paix. Et pour le faire, il faut changer ta coiffure. Ça veut dire que les cheveux, c'est censé représenter la violence. Donc il faut couper ce qui est la violence et en finir une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? Mais il y a un problème. Quand on coupe les cheveux, vous savez ce qui se passe après un certain temps? Ça repousse. C'est-à-dire que la violence n'est pas déracinée. On peut faire une coiffure pour un certain moment, mais ça revient. Il y a un problème. En tout cas, c'est ce que veut faire le roi d'Assyrie, qui est un responsable politique d'envergure mondiale, et il veut rentrer pour cela, il veut pour cela des ciseaux. Mais c'est quoi des ciseaux ? Ben, les ciseaux, ce sont deux épées qui sont liées l'une à l'autre, mais qui vont servir. C'est de la violence. C'est une armée, c'est des armes. Mais c'est des armes pour la paix. On va fonder une force internationale qui va être responsable d'assurer la paix sur Terre. Et pour ça, il faut rentrer dans une maison. C'est-à-dire il faut fonder une institution. Dans l'institution, qu'est-ce qu'on trouve là-bas ? On trouve les anges du service. C'est quoi les anges du service ? Eh bien, ce sont les 70 anges tutélaires des nations. C'est-à-dire, il y aura des représentants dans cette institution. Vous aurez des représentants du monde entier qui viendront pour être responsables du nouvel ordre. Et c'est eux qui donneront les ciseaux. Mais ils les donneront seulement à celui qui veut bien participer à l'effort. L'effort consiste à moudre des noyaux de date. Vous savez à quoi servent les noyaux de date ? À faire des palmiers dattiers. Si vous plantez deux noyaux de date l'un à côté de l'autre, ce qui va se passer, vous allez avoir deux palmiers qui vont entrer en rivalité. Donc, les noyaux de date, c'est l'origine des conflits. Et donc, il faut les moudre. Il faut faire un effort pour supprimer les causes de la violence. Et donc, le grand empereur, le grand responsable politique, va devoir donner également son effort. Et alors, on lui donnera la force internationale qui va lui permettre de faire la paix. Jusque-là, tout va bien. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe ? Je continue maintenant dans le texte. Ad de'ata irshar. Vous voyez donc, Dieu attend à l'extérieur. Pour l'instant, il attend qu'il finisse de moudre, qu'on lui donne les ciseaux. Et puis, entre-temps, il commence à faire nuit. L'obscurité arrive. Vous savez de quoi l'obscurité arrive ? Eh bien, la violence est revenue sur Terre. Il y a eu un élan de barbarie qui nécessite une action immédiate. Alors, il lui dit « Aïté Noura, amène une flamme. » Ça veut dire « Nous allons rentrer maintenant dans la guerre. » Azal va Aïté Noura. Il lui amène donc une torche. Bahadé des canafarlé, et quand il est en train de souffler pour la faire grandir, cette torche, Itlebe Noura Bedikne, le feu a pris sa barbe. C'est quoi la barbe ? C'est la sagesse. Quand on rentre dans le cycle de la violence, il y a un moment où on perd sa sagesse, on perd les valeurs. Azal, Gaziel et Reiche Bedikne. Alors Dieu s'empresse de lui couper immédiatement les cheveux et la barbe. Amrou, Hainu Dirtiv, et c'est ce qu'on a dit que c'est ça que voulait dire le verset, Vega metazakan tispe, et sa barbe aussi sera consumée. C'est-à-dire la barbe est consumée, c'est-à-dire que les nations n'arrivent pas à résoudre le problème de la violence. Amar Rav Papa, c'était donc le problème des fils à papa, maintenant c'est Rav Papa lui-même, qui dit, Hainu Damre Inche, c'est pour ça que c'est ce que dit le proverbe, Guérirte l'arma chapirle, si tu arrives à entraîner le gentil avec toi, itlele noura bedikne, fais que le feu emporte sa barbe, vela savat rucha mine, tu n'en cesseras pas de rire de lui. À nouveau, le rire intervient à ce moment-là. Donc on voit que la Gemara est assez pessimiste. Par rapport à la capacité des nations de faire la paix, il y a des tentatives qui sont prévues en fin d'histoire, après des grands conflits qui sont extrêmement violents. Alors l'humanité se reprend à un moment, mais on a besoin de faire intervenir un élément extérieur pour que la paix soit possible. Alors c'est quoi cet élément qui peut amener la paix sur Terre ? Là, nous rentrons dans des problèmes extrêmement importants, ce sont presque des problèmes d'actualité. Il y a tout d'abord chez les juifs une expérience existentielle de la paix une fois par semaine. Ça s'appelle le Shabbat. C'est-à-dire, c'est une institution absolument extraordinaire, celle du Shabbat, qui est que les juifs doivent vivre un moment dans leur semaine comme si le monde était déjà parfait. Il y a un principe, d'ailleurs, dans la paracha de Noach, après le déluge, il est dit « Yom valayla lo ishbotu » ils ne cesseront de travailler ni jour ni nuit. Et de là, la Gemara apprend que les goyim n'ont pas le droit de faire le Shabbat. Et pourquoi ? Ben parce que le monde n'est pas encore achevé. Rachid explique pourquoi cette interdiction de faire le Shabbat. « Shemevatel yishuvo shel olam » parce que le monde n'est pas encore complètement habité. Et donc, il faut continuer le travail. On n'a pas le droit de se reposer. Alors, pourquoi est-ce que les Juifs font le Shabbat ? Parce que les Juifs participent d'un niveau d'être, d'un niveau de, disons, de, oui, d'être, peut-on dire, qui est que nous vivons déjà un monde, une projection en tout cas du monde idéal. Ça se passe une fois par semaine. Ça se passe également une fois tous les 7 ans. Il y a une année sabbatique, par exemple celle de la Shemitah que nous sommes en train de vivre. Nous avons commencé l'année de la Shemitah. C'est une année dans laquelle nous faisons comme s'il n'y avait plus de problème économique. C'est-à-dire, on travaille la terre pour qu'il y ait de quoi manger, et puis pendant une année, on ne travaille pas la terre, et pourtant il y a de quoi manger. C'est comme quand on prépare son Shabbat, vous préparez, donc chacun pensera lui-même à qui s'il prépare pour le Shabbat, et bien de même, on prépare l'année de la Shemitah, et pendant l'année de la Shemitah, on ne travaille pas la terre. Donc nous avons une année sabbatique. La capacité de faire l'année sabbatique, c'est la capacité de faire la paix également. C'est la même chose. Il y a un autre texte dans le traité de Sanhédrin que je voudrais rappeler assez rapidement. Je sais que je vous accumule des textes ce soir, mais ce n'est pas grave, puisque c'est enregistré sur YouTube. Vous pourrez donc réviser. Il y a un texte dans Sanhédrin, page 94a, à propos d'un certain Gevihah ben Pessissa. Gevihah ben Pessissa était un sage qui était bossu. Comme il était bossu, il était disqualifié pour siéger dans le Sanhédrin. Donc il n'était pas un représentant officiel du judaïsme. Parce que pour siéger dans le Sanhédrin, il faut ne pas avoir d'infirmité. Comme il était infirme, il avait le dos bossu, il ne pouvait pas siéger dans le Sanhédrin. Mais ça a été utile justement à une occasion. La Gemara nous dit qu'au temps d'Alexandre le Grand, les nations se sont présentées devant le tribunal d'Alexandre. Alexandre le Grand n'est pas n'importe qui, c'est un personnage qui est capable de faire l'unité politique du monde. Il a fait l'unité entre l'Orient et l'Occident, quelque chose qui s'était fait pour la première fois dans l'histoire. Et d'après la Gemara, c'était un temps où on a rêvé de faire une sorte de tribunal international. Un tribunal dans lequel les conflits qui jusqu'à présent étaient réglés uniquement par la guerre seraient enfin jugé par le droit international. Et donc la Gemara nous raconte comment est-ce que les nations se sont présentées devant le tribunal d'Alexandre pour attaquer évidemment Israël, évidemment. C'est à quoi servent les institutions internationales si ce n'est pour attaquer Israël. Et donc la Gemara nous raconte 3 débats qui ont eu lieu là-bas. Le premier, c'est celui des Cananéens. Les Cananéens viennent se plaindre au tribunal d'Alexandre le Grand pour dire « Eretz Israël nous appartient ». D'où est-ce qu'ils arrivent, au fait, les Cananéens ? Eh bien, la Gemara nous dit qu'ils arrivent d'Afrique. Le terme « Afrique » à l'époque de la Gemara désigne non pas le continent africain, mais ça désigne l'Afrique telle que les Romains la définissaient, c'est-à-dire la Tunisie. C'est-à-dire, il y a des Cananéens en Tunisie qui sont donc exilés, qui sont à Tunis, comment ils sont arrivés là-bas, c'est pas très clair, mais en tout cas, donc, ils sont arrivés. En fait, bon, vous voyez qu'il y a l'écho des Phéniciens, des Carthaginois qui arrivent, qui sont en fait des Cananéens qui habitent en Afrique du Nord, et qui viennent se plaindre au tribunal international et qui disent que le reste d'Israël est à nous. Et ils disent, nous avons une preuve. Nous avons la preuve, c'est parce qu'il est dit dans toute la Torah, Eretz Kenan. Eretz Israël est appelé le pays de Kenan, donc c'est à nous. Et remarquez, chose très importante, c'est qu'il se base sur un texte de la Torah. C'est-à-dire quand il y a des accusations portées contre le peuple d'Israël dans une institution internationale, c'est toujours basé sur des documents officiels israéliens. C'est-à-dire c'est les Juifs qui vont donner les données nécessaires pour être attaqués. Et donc on envoie Gevihah ben Pessissa. Pourquoi est-ce qu'on envoie Gevihah ben Pessissa ? Parce que Gevihah ben Pessissa n'est pas un représentant officiel du judaïsme. Donc s'il dit des bêtises, c'est pas grave, on dira qu'il ne nous représente pas. Il arrive, il dit « Vous amenez des preuves, d'où ça ? De la Torah ? Dans ce cas, je vais amener aussi moi des textes de la Torah. » Et il dit « N'est-il pas écrit « Arur Kenaan, Eved Avadim Yele Rav, maudit soit Kenaan, il sera l'esclave de ses frères. Or, si un esclave acquiert des biens, Étant donné que l'esclave appartient à son maître, les biens appartiennent au maître. Donc, non seulement Eretz Israël ne vous appartient pas, mais ça fait déjà plusieurs années que vous ne nous avez pas servi, donc vous devez nous payer. Et Alexandre le Grand dit aux Cananéens, ben, répondez-lui. Et ils disent, donne-nous du temps. Il leur donne 3 jours. Ils ne trouvent pas de réponse et s'enfuient en laissant leurs vignes avec les raisins et les champs avec leur blé. Et cette année était l'année de la Shemitah. C'était l'année sabbatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors, il y a évidemment toute une richesse dans ce texte. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que Canaan est maudit? Est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est une constatation? On a l'habitude de penser que Noar a maudit Canaan. Mais Canaan, c'est son petit-fils. Il n'a quand même pas maudire sa propre descendance. Ça veut dire qu'au contraire, Noar a compris qu'il y avait une malédiction chez Canaan et qu'il fallait donc, pour le réparer, qu'il soit au service de ses frères. Ça veut dire que Canaan est asservi. C'est-à-dire, ça veut dire le mot Canaan, c'est-à-dire soumission. L'Ikana en hébreu, en arabe, ça se dit comment, soumission ? Islam. Et il y a une soumission. Il y a une soumission, mais au Yetzerara. Alors, pour réparer ça, il faut que pendant un certain temps, Canaan fasse des études chez ses frères. Et alors, que peuvent répondre les Cananéens à ça ? D'accord, mais Sire, Alexandre, c'est vrai que nous avons un asservissement au Yetzerara, mais on peut faire teshuva. Et c'est ce que dit en hébreu à Alexandre, Tnu lo teshuva. Dites-lui que vous pouvez faire teshuva. Ah, oui, mais ça prend du temps de faire teshuva. Alors, donne 3 jours. Pendant ces 3 jours, il y a une certaine autonomie qui est donnée aux Cananéens pour voir s'ils sont capables de ne plus être asservis au Yetzerara. Et puis, ça ne marche pas. Et c'était l'année sabbatique. Et donc, ils ont pris la fuite. Inch'Allah. Et donc, c'est-à-dire, il y a. L'année sabbatique, ça prouve que les Juifs faisaient la Shemitah à ce moment-là, mais que les Cananéens ne la faisaient pas. Et donc, ça, c'est un symptôme de leur incapacité de sortir du cycle de la violence. De même, après, il y a les Égyptiens, et puis après, les fils d'Ishmaël, les fils de Ketoura. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment notre sujet. En tout cas, vous voyez que, mais à chaque fois, il s'enfuit, et c'était le moment de la Shemitah que ça se passait. Et, bon, peut-être quand même, pour finir quand même le texte, ne l'oublions pas quand même, il y a dans ce texte de la Guémara, après viennent les Égyptiens. Et les Égyptiens disent, oui, mais vous nous avez volé, en sortant d'Égypte, vous nous avez volé l'or et l'argent. Rendez-le. Et à nouveau, c'est Gvia ben Pessissa qui leur dit, oui, mais cet argent, vous nous avez asservi pendant 430 ans, donc vous devez le salaire de 430 ans pour 600 000 personnes. Donc vous nous redevez encore plus. Et à nouveau, Alexandre leur dit, répondez-leur teshuva, ils n'ont pas de teshuva, ils s'enfuient après 3 jours en laissant leur champ et leur vignoble. Et puis après vient une troisième intervention, pas Mahad Baou Bene Ishmael ou Vene Ketoura, les fils d'Ishmael et de Ketoura viennent se présenter devant le tribunal d'Alexandre, et à nouveau ils disent Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils disent Eretz Israël à votre avis? Ils disent est à nous et à vous. C'est-à-dire, contrairement aux Cananéens qui disent vous nous avez pris une terre qui n'était pas à vous, les fils d'Ishmael disent non, non, la terre appartient à vous et à nous. Donc il faut partager. Intéressant que cet argument soit présenté dans la Guémara à une époque où les fils d'Ishmaël n'avaient encore rien fait pour s'emparer d'Eretz Israël à l'époque. Mais la Guémara déjà entrevoit à travers le texte de la Torah c'est la possibilité d'une affirmation de ce genre. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte de la Torah? La Torah nous dit « Ele toledot Yitzhak ben Avraham » voici les engendrements d'Yitzhak fils d'Avraham. Et il est écrit également « Vele toledot Ishmael ben Avraham » et voici les engendrements d'Ishmael, fils d'Abraham. Et donc, si on est fils d'Abraham, ça veut dire qu'on représente la postérité spirituelle d'Abraham. Et d'ici, les enfants d'Yitzhak, c'est-à-dire nous autres, nous sommes la postérité d'Abraham, et que Ishmael est également désigné de la même expression, ça veut dire que lui aussi est une manifestation de l'enseignement d'Abraham. Or, Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham une terre. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu intervient personnellement pour donner la terre aux descendants d'Abraham? Ça veut dire que c'est probablement nécessaire pour le projet que Dieu a donné aux enfants d'Abraham. Si cette terre est nécessaire pour le projet des enfants d'Abraham, elle est nécessaire aussi bien pour les descendants d'Israël que pour les descendants d'Ishmaël. C'est ça qu'affirment les fils d'Ishmaël devant le tribunal d'Alexandre. À nouveau, on envoie Gvia ben Pessissa. Et Gvia ben Pessissa leur dit, oui, mais vous vous basez sur la Torah à nouveau. Il y a un verset dans la Torah qui dit « Velivne apilakshi macher d'Avram natal Avram matanot » au fils des concubines d'Avram, Avram avait donné des cadeaux. « Vayeshalechem al Yitzhak beno beodenu chai » il les a renvoyés d'auprès d'Yitzhak, son fils, de son vivant, « Kedma el Eretz Kedem » à l'Orient, au pays de l'Orient. « Avshe natan lagatim levanav » un père qui a donné des legs à ses enfants, « Beyam bechayav » de son vivant, Veshiger Zeme Alze, il les a renvoyés l'un de l'autre. Klum Yeshalze Alze Klum, est-ce qu'il y a encore des exigences? Et c'est intéressant, c'est que la Gemara ne dit pas qu'Alexandre est intervenu dans cette histoire. Et le texte s'arrête là-bas. Comme s'il n'y avait pas de réponse. Simplement, c'est-à-dire que les fils d'Ishmaël ont refusé de répondre. Parce que les fils d'Ishmaël, à partir du moment où ils répondent, ils reconnaissent l'existence d'Yitzhak. Si Yitzhak est né, donc il est le fils de la légitime et eux sont le fils de la servante, donc ils ne peuvent pas parler. Intéressant de voir donc que chez Ishmaël il y a une incapacité du dialogue avec les descendants d'Yitzhak. Est-ce que ça serait éventuellement d'actualité? J'en sais rien, mais en tout cas c'est quoi cette histoire de la séparation qu'a fait Abraham entre les fils d'Yitzhak et les fils d'Ishmaël? Eh bien c'est très simple, c'est que quand on lit attentivement le texte de la paracha de Lech Lecha, on se rend compte que chez Abraham cohabitaient deux projets différents. Il y avait un projet qui consistait à fonder une religion monothéiste cosmopolite. C'était le premier projet d'Abraham. Abraham voulait fonder une religion destinée à l'ensemble de l'humanité et qui sanctifierait la vie des individus. C'est-à-dire, vous voulez sanctifier votre vie? C'est très simple, vous devez abandonner l'idolâtrie et ne servir qu'un seul Dieu. C'est simple, non? Et c'est ça qu'Abraham voulait enseigner à tout le monde. Un beau jour, à l'âge de 75 ans, Dieu intervient, apparaît à Abraham et lui dit, tu sais, j'ai pour toi un autre projet. Tu vas fonder une nation sainte. Abraham se dit, oh là là, la politique, moi j'y comprends rien. C'est difficile. Et on voit qu'il y a une réticence permanente, qu'il faudrait étudier dans le texte, il y a une réticence d'Abraham par rapport à cette idée de nation sainte. Et finalement, les deux aspirations d'Abraham, l'une qui est de fonder une religion qui concernerait l'ensemble des individus sur Terre, et l'autre qui serait de fonder une entité politique nationale, sanctifiée, eh bien ces deux vocations cohabitent chez Abraham et se concrétisent dans ses deux fils. Ishmaël, en fait, ne fait que continuer le monothéisme antique d'Abraham, antérieur à l'idée d'une nation sainte. Et tandis qu'Yitzhak est là pour réaliser l'alliance. Et l'alliance nécessite donc une entité politique. Si le projet d'Israël est un projet d'ordre national, un territoire est nécessaire. Il faut une terre pour fonder une nation. Mais si c'est du cosmopolitisme que l'on développe, non seulement on n'a pas besoin d'une terre, mais l'idée de l'enracinement sur une terre est contradictoire de cette idée-là. Donc Ishmaël continue Abraham, il est fils d'Abraham. Mais de quel Abraham? Du premier, de l'antérieur, du stade primitif. Celui qu'on appelle en arabe Ibrahim. Tandis que Yitzhak est la perpétuation de la deuxième phase d'Abraham, celle qui demande la transformation de la politique, de l'État. Et pour cela, fonder une nation sainte qui va servir de cœur aux organes que représentent les nations sur la terre. Donc on voit qu'il y a ici une différence, et tout ça se passe effectivement dans l'année de la Shemitah. Mais on voit que par rapport à Ishmaël, d'après le texte de la Gemara, on ne dit pas que ça se passait lors de la Shemitah, on nous dit simplement qu'il y a une séparation des vocations. pour revenir donc au problème de la, du rôle que nous devons remplir dans cette constellation-là, on peut se demander, est-ce qu'il faut attendre simplement que Dieu fasse son travail, d'amener la paix, ou est-ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous avons quelque chose à faire dans ce contexte? Alors, je veux dire, aujourd'hui, ça devient extrêmement grave, parce que une analyse superficielle de la conjoncture internationale semble indiquer que nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale. Non pas d'une guerre mondiale à la manière de la première et de la deuxième, dans lesquelles il y avait des armées, des avions, des tanks qui s'affrontaient, etc., sur le terrain. Il y a une sorte de guerre d'une autre nature, qui peut également évidemment dégénérer, qu'à Dieu ne plaise, en conflit armé, mais c'est une guerre d'une autre nature. La guerre consiste dans une rivalité pour déterminer qui aura l'hégémonie des valeurs dans l'humanité. C'est-à-dire qui est le leader du monde, des échelles de valeurs sur le globe. Et nous avons à ce propos différents pôles qui s'affrontent. Nous avons, le conflit disons, est extrêmement clair et ouvert entre l'Occident et le monde islamique. Mais il y a encore d'autres pôles qui rivalisent, par exemple les mystiques extrême-orientales. Il y a un quatrième pôle qui est pour l'instant en sommeil, mais qui va être obligé d'intervenir également, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Vous savez que la Guémara dit que la plus importante des nations, c'est Rome. Mais qu'il y a une deuxième nation presque aussi importante, c'est la Perse. Et la Guémara dit en quoi elles sont importantes, ces deux nations? Elles sont importantes parce que leur empire se prolonge jusqu'à l'avenue du Mashiach. Ça veut dire quoi donc? En quoi est-ce qu'on voit que Rome a continué? Ben, Rome est devenue l'Occident. Et on voit que la Perse est devenue l'Orient. Et donc ces conflits continuent. C'est ça le conflit qui doit être réglé à la fin de l'histoire. Et quand on voit ce qu'a fait Rome, ce qu'a fait l'Occident, ben l'Occident est devenu le monde à un moment de l'histoire, s'est emparé du globe. Et jusqu'à ce jour, l'Occident est à la dimension du globe tout entier. C'est-à-dire dans le monde entier, en fait, aujourd'hui, nous sommes en civilisation occidentale, dans tous les aéroports et dans tous les duty-free du monde, nous sommes en Occident. Tout le monde boit du Coca-Cola et mange des hamburgers de différents degrés de cacheroute, mais de toute manière, nous sommes encore donc tous en Occident, c'est une donnée. Il y a une tentative aujourd'hui du monde oriental de se révolter contre ça, de faire machine arrière, et ça se manifeste d'une manière extrêmement violente qui n'en a pas encore fini de se manifester. Et il faut savoir qu'est-ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous avons à faire là-dedans. Il faut comprendre que le conflit actuel est un conflit de valeurs. C'est vrai qu'il y a des intérêts économiques et des choses extrêmement basses qui sont liées à ça, des volontés de puissance et tout le reste, mais il y a dans le fondement de l'affrontement entre l'Orient et l'Occident aujourd'hui, il y a un affrontement de valeurs. Cet affrontement vient en fait de deux traditions totalement différentes l'une de l'autre. On peut dire que chacun, aussi bien l'Orient que l'Occident, a fait sa teshuva d'une certaine manière. Vous savez bien que l'Occident, Rome, a fait teshuva à un moment de son histoire en adoptant le christianisme. Le christianisme est venu pour adoucir les mœurs de l'Empire romain. C'est-à-dire, tant que c'était le paganisme qui dominait à Rome, eh bien, il y avait les jeux du cirque. Et puis, quand Rome est devenue chrétienne, eh bien, les jeux du cirque ont été interdits. Et on a commencé à parler d'amour. Dieu étant un Dieu d'amour. Le Maharal de Prague explique que chaque nation adopte comme divinité ce qui est contraire à sa nature primordiale. C'est-à-dire, étant donné que les fils de Édom sont des verseurs de sang, ce sont des assassins, eh bien, le chidouche dans le monde romain a été qu'on peut servir un dieu d'amour qui ne veut pas de la violence, qui ne veut pas de la guerre. C'est extraordinaire. Et donc, c'est une manière de faire teshuva qui a finalement, d'une certaine manière, affaibli l'envergure de l'homme. Il y a une critique d'ailleurs du christianisme qui a été formulée par le philosophe Nietzsche, qui affirmait que la morale chrétienne a affaibli, a ramolli les hommes. D'une certaine manière, on peut dire que le christianisme voit comme idéal humain le personnage biblique de Hevel. Hevel, qui est un berger extrêmement doux, qui est incapable de résister à la violence de Caïn. D'un autre côté, on peut dire que le monde oriental, qui était porté vers le vol et la débauche, a fait sa teshuva en adoptant, bon, ce sont des thèmes bien connus, la Midat Hadin, c'est-à-dire une religion de rigueur. Effectivement, si vous observez un peu la religion des orientaux, vous voyez qu'il y a une certaine dose de rigueur qui se manifeste, au point d'en perdre la tête, en tout cas celle des autres. Et on peut dire que c'est également une forme de teshuva. C'est de résister à la bassesse de la nature. Et on peut dire que, d'une certaine manière, c'est comme ça que ils sont devenus comme Caïn, comme le personnage biblique de Caïn. Et si on traduit ça dans les termes actuels, l'Occident a une exigence de liberté et l'Orient a une exigence de soumission à Dieu. La liberté, telle qu'elle est comprise en Occident, signifie la liberté donnée à tout, y compris au Yetzer Hara. Mais donner la liberté au Yetzer Hara, du point de vue des Occidentaux, n'est pas un mal. Ça veut dire accepter toutes les conséquences du fait que les hommes sont libres. La liberté n'est pas quelque chose que l'on peut limiter. Donc je suis libre d'exercer mon Yetzer Hara. Il y avait une journaliste bien connue, Oriana Fallaci, dans son livre, elle est d'origine italienne, elle est devenue américaine, et elle a écrit le livre La rage et l'orgueil, dans lequel elle attaque très violemment l'islam. Et elle amène des arguments, l'argument, de force qu'elle amène, ça se résume en une phrase, elle dit « Le jour où l'islam dominera, nous ne pourrons plus boire de whisky et se promener en mini-jupe. » C'est ce qu'elle dit, d'accord ? C'est ça l'essence de l'argument. Alors ça a l'air drôle, mais en fait c'est très profond. Ça veut dire boire du whisky et se promener en mini-jupe, eh ben, ça veut dire que je suis libre, je suis véritablement libre et je l'assume jusqu'au bout. Et on peut dire d'une certaine manière, c'est l'héritage de la philosophie grecque. La philosophie grecque a décidé, une bonne fois pour toutes, de mettre l'homme au centre du monde. C'est extrêmement révoltant pour le monde oriental qui se dit, mais enfin vous êtes fous, mettre l'homme au centre du monde, c'est une révolte, une révolte contre Dieu. C'est Dieu qui est au centre du monde, l'homme ne signifie rien. C'est la soumission qui est la seule position possible. Alors, vous comprenez, dans un monde où l'affrontement vient au nom des valeurs, le conflit est inévitable. Il est urgent d'intervenir, de faire un peu d'ordre. Et les nations ont une tradition d'écouter ce que dit Israël. Ce n'est pas toujours dit de cette manière, mais c'est évident que si nous avons réussi, un peu à notre insu, un peu contre votre volonté, à créer deux religions universelles, qui incluent plusieurs milliards de personnes, ça veut dire que l'humanité, elle est à l'écoute d'Israël. Et donc, qu'est-ce que nous avons à leur enseigner ? Est-ce que c'est Dieu qui est au centre ou est-ce que c'est l'homme qui est au centre ? L'anthropocentrisme ou le théocentrisme ? Bon, vous savez que la réponse est, comme d'habitude, l'unité des valeurs. Ça veut dire qu'en fait, la Torah ne place ni l'homme ni Dieu au centre du monde, elle place le dialogue au centre du monde. Il y a un dialogue entre le Créateur et la créature. Or, ce dialogue n'est possible que si la prophétie existe, s'il y a un canal de parole qui relie le Créateur à la créature et inversement. Donc, on peut dire que nous sommes responsables de créer une cheminée dans le toit du monde et d'en être les ramoneurs. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les juifs sont si souvent habillés de noir, c'est probablement à cause d'une vocation d'être les ramoneurs des cheminées de l'humanité, enfin du monde, pour introduire une relation entre la créature et la transcendance. Et donc, c'est ça un peu notre travail. Et ce travail, nous sommes en train de le réaliser en Eretz Israël, en recréant la civilisation prophétique. Alors ça prend du temps, les prophètes ça apparaît pas n'importe comment, il y en a un peu partout dans les asiles de fous, mais quand ça deviendra mûr, eh bien il y aura un temps où la parole de Dieu se fera entendre de Tzion. Ce que les goyim attendent de nous, c'est pas simplement des halachot, c'est pas des règles de morale ou même des règles de halacha. Ce que les goyim attendent de nous, c'est ce que disent les prophètes, en tout cas ils attendent d'entendre une parole. Et cette parole, nous travaillons là-dessus pour qu'elle se réalise. D'ailleurs, le temps où cette espérance devient extrêmement forte chez nous, c'est la fête de Sukkot. Parce que c'est le temps où nous nous sentons responsables du devenir des nations. Vous connaissez cette halakha qui est que, lors de la fête de Sukkot, dans le Bet HaMikdash, on présente 70 taureaux pour faire l'expiation des 70 nations. Or, les 70 taureaux sont divisés en deux. En deux groupes de 35 chacun, 35 fois 2 égale 70. C'est le Gaon de Vilna qui a fait remarquer la chose suivante, c'est que vous savez que le premier jour de Sukkot on présente 13 taureaux, le deuxième 12, après 11, 10, 9, 8, 7. Et à chaque fois qu'on amène des taureaux, on amène également un bouc, le bouc expiatoire, Se'ir l'Echatat. Or parfois la Torah emploie l'expression de Se'ir l'Echatat, le bouc pour l'expiation, et parfois dit Seir Izim, un bouc de chèvre, les hatat. C'est la même chose, Seir et Seir Izim, ça représente exactement le même animal. Le Gaon de Vilna a fait remarquer que le mot Seir est employé le premier, le deuxième et le quatrième jour. Et le mot Seir Izim, le troisième, cinquième, sixième et septième jour. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le nombre de taureaux qu'il y a le premier, deuxième et quatrième jour, ça vous donne 35 taureaux. Et qu'il reste encore 35 taureaux pour les autres jours. C'est-à-dire 35 et 35, il dit c'est parce qu'il y a 35 nations. C'est-à-dire le chiffre 70 représente les 70 nations, bien qu'il y en ait plus, mais c'est un chiffre typologique. C'est-à-dire c'est un archétype du nombre des nations, c'est 70. Et les 70 nations sont divisées en deux groupes. Les 35 qui dépendent de Édom et les 35 qui dépendent d'Ishmaël. C'est-à-dire ce que dit le gars de Vilna, c'est que finalement, l'humanité n'est pas unifiée, elle est faite de deux groupes. Et ces deux groupes s'affrontent à un moment. Et c'est le mot, et c'est quand il y a cet affrontement que Israël est porté à prendre sa responsabilité au niveau de l'enseignement des valeurs aux nations. D'ailleurs, peut-être signe des temps, quelque chose a commencé à bouger et qui est en rapport justement avec l'année sabbatique. Vous savez que, bon, mais ça c'est ce petit quelque chose qui a commencé à bouger est entré par la porte de service, mais enfin c'est quand même une anecdote intéressante. Il y a, vous savez que lors de l'année de la Shemitah, il est interdit donc de travailler la terre, ce qui pose des problèmes économiques assez importants. Et une des solutions envisagées par les rabbins, c'est de vendre les champs en Eretz Israël à un goy, de sorte que ce ne soit plus notre terre, et donc on a le droit de travailler la terre pendant la Shemitah. C'est ce qu'on appelle le Heter Amechira, qui est âprement critiqué par certaines autorités charédites. Un des arguments contre ce subterfuge, qui ressemble un peu à la vente du Hametz à Pessah, c'est que, d'après la Halakha, on n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël à des non-juifs. C'est interdit. Lo techonem. Mais la Halakha n'interdit pas de vendre des terres à un guer toshav, à un non-juif qui a le statut d'étranger résident. C'est un statut extrêmement particulier, qui demande de se présenter devant un tribunal rabbinique et d'accepter les 7 lois noachides. Et à partir de ce moment-là, le tribunal peut accepter le personnage en question comme guer toshav, comme résident en Eretz Israël, et on a le droit de lui vendre des terres. Il y a un petit problème simplement, c'est que ce statut n'existe d'après Maïmonide qu'au temps où le Yovel, le jubilé, a cours. Or de nos jours le jubilé n'a pas cours, donc ce statut n'existe pas. Et bien pourtant, pour que le jubilé se reproduise, il faut qu'il y ait, d'après la Halakha, une majorité du peuple juif en Eretz Israël. On n'en est pas loin. D'après les statistiques officielles, 45% du peuple juif habite aujourd'hui en Eretz Israël. C'est quand même pas mal, 45%, c'est pas loin de 50%. Mais on n'y est pas encore. Le grand rabbinat d'Israël a demandé, on me demandait, est-ce que tu n'aurais pas par hasard un guer toshav à nous proposer parce qu'on voudrait vendre la terre sans que ce soit critiqué par les Haredim ? Je leur dis, mais vous avez réfléchi au problème du jubilé? Il dit, oui, mais écoute, il y a quand même des poskim qui acceptent, etc. Bon, finalement, un non-juif s'est présenté, il y a de cela un mois, devant le haut tribunal du grand rabbinat d'Israël, et il a été officiellement reconnu comme guer toshav, et c'est à lui qu'ont été vendues les terres dans cette année de Shemitah. Donc, bon, c'est un symptôme, c'est une hirondelle annonciatrice peut-être, mais ça veut dire que des choses sont en train de bouger au niveau de, non pas simplement d'une transformation des données halakhiques, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Ça veut dire que nous avons un message universel. C'est-à-dire que nous sommes obligés par les circonstances à prendre des responsabilités par rapport à l'humanité. Et il y a un symptôme, si vous voulez, halakhique, qui fait que ça a commencé. Mais ça ne fait que commencer. Et une fois que ce processus sera enclenché, nous serons peut-être même à même d'affronter nos responsabilités, surtout lorsque commencera ce grand conflit des nations entre elles, qui, par la force des choses, ne peut pas ne pas être dirigé d'une manière ou d'une autre contre le peuple d'Israël, mais ne vous en faites pas, comme dans tous les bons westerns, ça se finit bien, finalement c'est toujours le peuple juif qui gagne à la fin. Chag Sameach.